Vous écoutez France Culture.
Réplique, quelle leçon tirer de la crise avec Jacques Julliard et Alain Minc. Au début de l'année, le 18 janvier exactement, Jacques Julliard publiait dans Libération une tribune fracassante. 20 thèses pour repartir du pied gauche. Le débat qui s'en suivit fut vigoureux et parfois âpre. Jacques Julliard y prit sa part, notamment dans Marianne, où, interrogé par Éric Conant, ravi de voir se réveiller ce péguiste longtemps assoupi dans le confort du Nouvel Obs, il eut ce cri du cœur « C'est précisément ce que je n'ai plus supporté d'un seul coup. Cette impression que droite ou gauche au pouvoir, ce sera toujours Alain Minc qui gouverne. Il faut vraiment passer à autre chose. » Alain Minc est là, Jacques Julliard. Vous pourrez donc lui dire en face le fond de votre pensée et d'abord, peut-être, en préciser les contours. Autre chose que quoi et quelle serait cette autre chose ? Jacques Julliard.
Bien, alors, pour ce qui est de la boutade que j'ai en effet prononcée devant Éric Conant, moi je la trouve plutôt affectueuse. Moi je pense que si on avait dit une chose pareille de moi, je serais flatté au-delà de ce que je peux espérer jusqu'à la fin de ma vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'Alain a pris une place dans la vie intellectuelle et politique française de tout premier ordre, mais je ne fais qu'enfoncer une porte ouverte. Au-delà, c'est plus du tout la personne, ni même les idées personnelles dans la main que vous allez entendre d'ailleurs. Mais c'est le sentiment que j'ai eu cet été. Ça explique peut-être ce que vous considérez comme enfin une sorte de rentrée fracassante, un peu au-delà de ce qu'on attendait de moi. J'ai eu le sentiment que nous étions en train de changer d'époque, que la crise, puisque c'est notre sujet, après tout. Cette crise n'est pas seulement un moment, comme il y en a eu, et comme il y en a théoriquement tous les 7 ou 10 ans, mais que cette fois-ci, en raison des acteurs et du comportement des acteurs, quelque chose de complètement nouveau apparaissait. Autrement dit, l'ennemi, entre guillemets, était identifié. C'était le capitalisme financier. Jusqu'alors, c'était beaucoup moins net. En tout cas, c'est par rapport à lui que tous les acteurs devaient se situer. Et j'ajoute, les acteurs gouvernementaux eux-mêmes. Car ce qui me frappe dans cette crise, et je suis curieux d'avoir le point de vue d'Alain Minc là-dessus, c'est que les politiques de droite, qui normalement devraient être l'expression politique précisément du capitalisme actuel, non seulement ne sont pas d'accord, mais ont beaucoup de peine à imposer leur point de vue par rapport, je dirais, à leurs homologues économiques. J'en veux deux expressions. C'est d'abord Nicolas Sarkozy, qui est le premier, je crois parmi les premiers, à caractériser cette crise d'une manière extrêmement vigoureuse. Obama lui-même, on attendait qu'il réagisse et il n'a pas pu le faire. C'est cette quasi-impuissance des politiques par rapport au capitalisme financier tel qu'il se développe, qui me paraît le point fondamental. À partir de là, eh bien, effectivement, mais là, je m'arrête tout de suite pour donner la parole à Alain, il y a des conséquences à en tirer. Mais je souligne, pour terminer, que actuellement, sur le diagnostic, il n'y a pas tellement de désaccords. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais simplement, j'avais fait un montage de citations de qui vous savez, je vous en donne simplement deux. On a engendré un monde où tout était donné au capital, tout ou presque tout, et presque rien au travail. Et enfin, en mettant la liberté du commerce au-dessus de tout, on a affaibli la démocratie, parce que les citoyens attendent de la démocratie qu'elle les protège.
Ça, c'est Sarkozy.
Tout ça est signé Sarkozy, oui, de ce discours de Davos, qui est vraiment extraordinaire, qui est franchement, il y a tout le diagnostic sur la crise.
Bon, j'aurais des choses à dire. Alain Minc.
La boutade, je l'ai trouvée très affectueuse, donc je la prends pour telle, donc ça c'est surtout pas le sujet. Bon, d'abord, crise. Il faudrait tout de même penser que pour une grande partie de l'humanité, il n'y a pas de crise. Il faudrait, au fond, se rappeler que le monde, je dis bien le monde, a connu 6 ou 7 années de vache grasse, à 6% de croissance par an, que nous allons avoir une année de vache maigre mondialement parlant, nous l'avons eu à 3% négatif, et que nous repartons immédiatement sur une croissance mondiale de 3%. Donc, je crois qu'il faut toujours avoir ça à l'esprit. Ça veut dire que en réalité, il y a toute une partie du monde pour lequel il n'y a pas de crise et il y a au contraire une période d'immense prospérité croissante qui a été payée d'une petite secousse. Alors, il n'en va pas de même dans le vieux monde. Et d'ailleurs, pour moi, la vraie leçon de cette crise, en termes globaux, c'est que les États-Unis, qui étaient quelque part à mi-distance entre le vieux monde, la vieille Europe, et le nouveau monde asiatique, bascule de notre côté, et bascule de notre côté à cause du fardeau de dette publique qu'ils ont dû prendre pour faire, comme nous, une relance. Donc désormais, à mes yeux, quand on dit le vieux monde incorpore aussi les États-Unis. Alors maintenant, arrivons au propos de Jacques Julliard, c'est-à-dire quid du vieux monde. Et je pense que notre désaccord ne sera pas aussi total que vous l'attendez. L'exemple d'Obama est très fascinant. Obama a capitulé devant Wall Street. Et je pense personnellement, je l'ai même dit dans une conférence à Washington, que M. Geithner, son secrétaire d'État au Trésor, est ce que l'on disait de Blair vis-à-vis de Bush, poodle. C'est en réalité le caniche de Wall Street. Ce que n'était pas son prédécesseur, chairman de Goldman Sachs, c'est qu'il était obligé de faire un peu semblant, vaguement semblant. Mais c'est périphérique et secondaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'il y a une analyse de classe à avoir. Absolument, en termes marxistes de ce point de vue. Moi, je n'ai jamais renié le marxisme comme outil d'analyse. Et il est bien évident que dans l'affrontement entre les gouvernements et une certaine classe financière, les gouvernements partent mal. Alors, vous avez fait avec habileté un montage de déclaration de quelqu'un que j'aime beaucoup et dont je suis proche, qui est le président de la République. Mais vous auriez pu faire le même montage de quelqu'un dont je ne suis pas proche, mais que je respecte beaucoup, qui est Mme Merkel. Car les déclarations en Allemagne de Mme Merkel sont exactement du même tonneau. Et le paradoxe, c'est que M. Brown est presque sur la même ligne, à ceci près, qu'il doit faire attention quand même aux intérêts locaux, c'est-à-dire à la City.
Est-ce à dire à la main que les gouvernements européens, eux, n'ont pas capitulé devant leurs bourses respectives, devant le capitalisme financier, et donc leur réaction à la crise ont été différents?
Il y a deux sujets différents. La réaction à la crise, tout le monde a eu la même, les Américains comme nous, c'est-à-dire on a baissé les taux d'intérêt, on a fait un plan de relance keynésien, et vraiment, il faut toujours avoir en tête que si ceci avait été fait en 1930, l'histoire du XXe siècle aurait sans doute été différente. Les banques centrales et les gouvernements ont fait le boulot, exceptionnellement. Et puis il y a un autre problème, qui est celui auquel vous faites l'un et l'autre allusion, qui est demain, quid de la régulation? Et je pense qu'on va au G20 de l'an prochain, sous présidence française, vers un affrontement extrêmement violent entre les Américains et les Européens. On pourra y revenir.
Alors c'est en effet la question qui domine l'avenir. C'est à partir du moment où l'on considère, et on est d'accord hein, sur le diagnostic, à savoir que ça ne peut pas continuer comme avant. Ce n'est pas l'influence personnelle dans la main qui est en cause. Je dis, quand j'ai dit ça ne peut pas continuer comme avant, on ne peut pas dire, bon, ben, ça y est, on a essuyé cette bonasse, plus exactement ce grain, et puis maintenant on recommence comme avant. Donc ça, c'est pas possible. Quelle forme de régulation? C'est là que je suis beaucoup plus pessimiste qu'Alain, qui, enfin d'ailleurs, je ne sais pas s'il est optimiste, il a dit on aura probablement un affrontement entre les Américains et les Européens. Moi, ce qui me frappe dès maintenant, c'est une certaine impuissance des politiques. Nicolas Sarkozy a déjà essayé, lors du précédent G20, d'imposer des formes de régulation, de réforme du système bancaire international, et il a échoué parce que les Américains n'en voulaient pas, et les Anglais non plus, et les Allemands très très peu. Ça se reproduise dans les mêmes conditions la prochaine fois. Alors je vais dire après...
Une remarque qui n'est qu'une nuance. Les Allemands étaient encore plus rudes que les Français. Et d'ailleurs, avec une habileté nouvelle dans la relation franco-allemande, Nicolas Sarkozy laissait parler Mme Merkel en premier. Mais en revanche, je suis d'accord, les Américains n'en voulaient pas.
Soit
en aucun cas.
Jacques Julliard, cette impuissance des politiques est-elle, à vos yeux, structurelle ou vient-elle du fait que, en France comme en Allemagne, ces responsables politiques viennent de la droite? Parce que si j'en reviens à cette tribune que je qualifiais tout à l'heure de fracassante, vous nous dites qu'il faut que la gauche se réveille, vous plaidez pour une alliance qui irait du centre jusqu'à l'extrême gauche, et vous avez cette phrase, vous dites adieu aux illusions, à certaines illusions de la deuxième gauche, et vous dites quelques-uns des membres les plus éminents de la deuxième gauche se sont fait les auxiliaires du pouvoir sarkozien, c'est dire l'étendue de leur renoncement et de leur faillite. Et d'un autre côté, vous nous avez lu des déclarations du président Sarkozy qui vont dans votre sens. Alors, je voudrais comprendre, est-ce que la gauche aurait mieux fait ou pourrait mieux faire?
Alors, aurait mieux fait, je n'en sais rien et j'avoue que j'en doute. Pourrait-elle faire mieux? Je l'espère. Je vais vous dire pourquoi. Il n'y a pas de contradiction dans le fait de dire que Nicolas Sarkozy pose un diagnostic qui n'est pas tellement différent de celui que je lis sous la plume de la plupart des économistes ou des hommes politiques de gauche. Ça va de Stiglitz à Martine Aubry, en passant par qui vous voudrez. Et puis le fait que, néanmoins, je mettais en cause l'attitude de la deuxième gauche. Pourquoi? Enfin, l'attitude actuelle, pas passée. Tout simplement parce que le capitalisme d'hier était un capitalisme, on l'a appelé Renan pour faire vite, c'était un capitalisme qui acceptait assez volontiers, notamment dans le cas de la France, le compromis social. Et la démarche de la social-démocratie, ce qu'on appelait la deuxième gauche, c'était de tenir compte de cela pour quoi faire? Pour moderniser la France. Pour tout simplement parce qu'il y a, et je continue de le penser, les intérêts supérieurs de la nation. Aujourd'hui, je pense que ce compromis est impossible. Avec ce nouveau capitalisme financier. Alors, je réponds à votre question, est-ce que la gauche peut faire mieux? Oui, à une condition, c'est qu'elle ne se perde pas simplement dans des combinaisons politiques, mais qu'elle utilise son seul véritable levier dans un monde où le capitalisme n'a plus de concurrents, depuis l'effondrement du communisme, à savoir une mobilisation populaire. Et c'est pour ça que, en des termes que beaucoup de mes amis, et moi-même, on pourrait qualifier de retour au passé, de front populaire, certains ont dit populisme, alors là, ça, je refuse absolument, mais je crois...
Perlevade a dit ça.
Je crois, oui, Perlevade en particulier. Je crois, en revanche, que tant que les citoyens, pour ne pas employer un terme... de gauche connotée, les citoyens ne se mobilisent pas dans cette affaire, eh bien l'impuissance des politiques par rapport aux banquiers, à l'économie dominante restera. Et donc, c'est pourquoi j'appelle dans cet article à un rassemblement qui ne va pas de Bayrou à Besancenot, pas du tout, hein, parce que je récuse les analyses de l'un et de l'autre, mais en revanche des électorats qui vont de celui du centre, en effet, à celui de l'extrême gauche.
Je crois qu'il y a deux sujets différents. Il y a le débat sur la régulation mondiale du capitalisme, en particulier du capitalisme financier. Et je crois honnêtement que sur ce sujet, un gouvernement de gauche ou un président ou une présidente de gauche n'aurait pas eu des positions différentes de celles de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel et de Zapatero. Donc sur ce sujet, à la limite, on sera d'accord, on peut en redire un mot. Je trouve, revenons sur l'autre sujet que pose Jacques. Moi, j'ai trouvé sa tribune, avec laquelle j'ai des désaccords évidemment considérables, très intéressante et très bienvenue. Pourquoi? Au fond, le capitalisme est une machine qui fabrique de l'efficacité et de l'inégalité. C'est sa définition. Quand il tourne à pleine vitesse, il fabrique beaucoup d'efficacité et beaucoup d'inégalité. Je trouve que le vrai débat démocratique, c'est un débat sur le point de savoir combien d'efficacité pour combien d'inégalité. Et ça, c'est un vrai débat où, à l'intérieur d'une équation, qui est l'équation où nous vivons tous, qui est l'économie de marché, on peut avoir des réponses tout à fait différentes. Tout le monde adorerait que le capitalisme fabrique énormément d'efficacité avec peu d'inégalité. Alors ça, évidemment, ça serait parfait. La question, c'est pas celle-là. Et c'est là que nous aurons un désaccord. C'est que quand on veut faire plus d'égalité, il y a un moment où on met le frein, si on va trop loin, sur la pédale de l'efficacité. Et donc, je trouve que Jacques, de ce point de vue, a ouvert un débat qui est un vrai débat. C'est qu'est-ce que être Moi, je me définis comme un libéral de gauche. Bon, mais qu'est-ce que c'est qu'être un libéral de gauche et qu'est-ce que c'est qu'être un social-démocrate pour les années qui viennent ? C'est certainement pas le compromis social à l'allemande d'autrefois.
Voilà.
Merveilleux débat, et on l'a pas assez eu, je trouve qu'il l'ouvre. Et quant à la traduction politique de ce débat, à mon avis, elle est seconde. Elle vient après. Et quant à bon, notre ami Jean-Pierre Levade, depuis qu'il fréquente François Bayrou, ne mesure plus tout à fait ses mots. On peut très fait faire mille reproches à Jacques, mais pas d'être populiste.
Non. Bon.
Mais ça, c'est la mauvaise fréquentation de Bayrou.
Jacques-Julien,
effectivement, je pense que le débat va au-delà des personnes et même de la situation actuelle. C'est le choc, en quelque sorte, comme dans la tectonique des plaques, entre un capitalisme dont Alain Mac a défini le caractère, il produit de l'efficacité, il produit de la richesse au prix de beaucoup d'inégalités. Autrement dit, c'est le fameux thème de la morale, je ne dis pas de l'immoralité nécessaire, mais de la moralité du capitalisme. Ce qui est ennuyeux, c'est qu'à l'heure actuelle, ce capitalisme est en train de devenir immoral, alors que je comprendrais très bien qu'il soit amoral. Et puis, la politique, qui est forcément un exercice moral. Je veux dire par là que, quel est le but de la politique ? C'est pas la prospérité. Le but de la politique, c'est d'une part la sécurité des citoyens. Depuis Hobbes, on sait ça, un peu même avant. Et puis, c'est la justice sociale.
Non, Jacques, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas la prospérité. Je comprends très bien votre définition, mais il faut ajouter dans le triptyque la prospérité. Vous avez dit le but des politiques, ça n'est pas la prospérité. Non, c'est la prospérité avec la justice sociale.
Voilà. Non, mais je veux dire leur but spécifique. Ou alors on entre dans le communisme. Enfin, ça n'est pas à eux à fabriquer.
Non, mais c'est à eux de
fabriquer. C'est en ça que je suis presque aussi libéral que vous. Vous comprenez ce que je veux dire ?
C'est à eux de fabriquer les conditions. C'est à eux de fabriquer les conditions qui permettent de maximiser la prospérité. Avec un degré d'inégalité accepté ou non.
Voilà, d'accord. Mais en revanche, leur responsabilité directe, c'est que quel que soit le niveau de prospérité, il y ait un niveau d'inégalité acceptable.
Oui.
Et aujourd'hui, ce niveau d'inégalité est inacceptable. J'ai écrit, et ça j'y tenais beaucoup dans ces 20 thèses auxquelles vous faites allusion, que au lieu du continuum qui existait autrefois entre l'échelle des salaires depuis le SMIC jusqu'au plus haut, il y avait en effet quelque chose d'organique. Désormais, on retourne à une société de classe, c'est-à-dire que les règles qui régissent les revenus des plus riches n'ont plus rien à voir avec ceux qui régissent les revenus de l'ensemble de la population. C'est en cela que ce capitalisme crée les conditions d'un déséquilibre démocratique. J'ai d'ailleurs une très belle citation de Sarkozy à ce sujet, mais je vous en fais grâce.
C'est votre maître à penser, décidément.
Je vous en fais grâce.
Non, mais alors, simplement pour vous mettre d'accord sur la question de la prospérité, je rappellerai le discours de Roosevelt du 6 janvier 41 et les quatre libertés fondamentales. Freedom of speech, freedom of religion, freedom from want, freedom from fear, donc la libération à l'égard du besoin, ce qui veut dire que la prospérité aussi figure dans les buts de la politique à la main.
À ce degré-là, nous n'avons pas encore de gros désaccords, parce que l'un et l'autre, vous aviez peut-être noté un papier que j'avais fait dans le Figaro, qui avait exprès dans le Figaro, qui s'appelait « Lettre ouverte à mes amis de la classe dirigeante ».
Bien sûr, ça ne m'avait pas échappé.
Qui m'avait valu quelques discussions avec mes amis de la classe dirigeante. Je pense,
vous disiez quoi dans cet article ?
Je disais « Vous êtes fous ».
Ouais.
Vous ne faites pas la part du feu. Dans la vie, il faut savoir faire la part du feu. On est à un moment très particulier, donc basta sur les salaires, basta sur les bonus, basta sur les stock options. Pas définitivement. Je pense que le degré d'inégalité perçu ou accepté par la société n'est pas le même en période de prospérité et en période de récession. Et que je leur faisais grief de ne pas avoir fait en période de récession les gestes symboliques qui participaient du consensus social. Et je le reproche particulièrement au MEDEF. Pas l'UIMM. L'UIMM, le vieux comité des forges, c'est ce qu'est la relation avec les acteurs sociaux.
C'est vrai. Tout de même, Alain, lorsque vous dites qu'il y a un degré d'inégalité qui est variable suivant les périodes, c'est vrai. Il n'empêche que la tendance est d'aller vers quelque chose d'inacceptable en tout état de cause. Vous savez que Ford considérait que l'écart maximal était allé de 1 à 30. On a vécu pendant longtemps sur 1 à 50. Nous sommes aujourd'hui à quelque chose comme 1 à 500, sinon davantage. Alors, je vais quand même vous donner une citation. Elle n'est pas de...
Elle n'est pas du même auteur.
Elle n'est pas du même... Je
ah,
ne lis pas
Dieu,
que
Sarkozy.
Un temps viendra. D'ailleurs, le style lundi, un temps viendra où l'on ne concevra pas qu'il fût un ordre social dans lequel un homme comptait 1 million de revenus tandis qu'un autre homme n'avait pas de quoi payer son dîner. Eh bien, ça, c'est de Chateaubriand. Oui. C'est à la fin des Mémoires d'Outre-Tombe. Et si vous voulez, nous sommes revenus à cette époque. C'est ça qui est effrayant. C'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se payer un dîner. Il y a 800 000 personnes cette année qui sont allées au Resto du Cœur. Et quant au revenu d'1 million, il est aujourd'hui dépassé. Alors,
bon, je vais être un peu moins émotif que Jacques et pas parler des Restos du Cœur. Mais je vais essayer de mettre dans la discussion deux facteurs objectifs. C'est évident que la pression des actionnaires sur les entreprises est beaucoup plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Cela dit, il faut s'entendre sur le mot actionnaire.
Oui.
Les actionnaires qui font pression aujourd'hui sur la gestion de nos entreprises sont pour une bonne part les fonds qui gèrent les retraites des employés de Californie.
Les veuves d'Écosse.
Non, mais il ne faut jamais l'oublier.
C'est un actionnariat populaire.
C'est la défense par une oligarchie financière des épargnants du monde entier. Bon. Donc, ce n'est pas le vieux rapport de classe, le bourgeois Louis-Philippe Barre face au prolétariat. Mais en revanche, donc la question sur la classe sociale, ce n'est pas les actionnaires en tant que tels, c'est l'oligarchie qui représente les actionnaires.
D'accord.
De l'autre côté, le problème, et alors ce n'est pas l'ancienne tête pensante de la CFDT qui me détrompera, c'est que le déséquilibre s'est fait pourquoi ? Il y avait un équilibre entre un capital moins exigeant et des syndicats plus puissants. Le capital est plus exigeant et plus fort et les syndicats sont moins puissants. Et le vrai problème, à mes yeux, de la société française. Et c'est en ça que je suis très attaché à la politique d'ouverture à l'égard des syndicats, sans précédent menée par le président de la République par rapport aux périodes précédentes et qui a interrogé les gens des syndicats sur la façon dont ils étaient traités par Lionel Jospin et dont ils sont traités aujourd'hui, c'est qu'il faut redonner de la place et du pouvoir aux syndicats. La seule chose, c'est que c'est très difficile de leur donner une place octroyée, c'est-à-dire je vous considère davantage, si simultanément leur représentativité factuelle n'augmente pas. Mais ça, c'est un enjeu, à mes yeux, absolument considérable. C'est la faiblesse syndicale, même en Allemagne, qui aboutit à ce déséquilibre.
Alors, sur deux points. Le premier, en effet, l'actionnaire n'est pas nécessairement le grand capital. Je dirais que c'est l'habileté et la perversité du système d'impliquer dans une politique qui est celle que nous vivons des gens qui sont de petites gens et qui ont des petites retraites. Simplement, on leur a expliqué, on les a impliqués. On leur a dit, nous allons regrouper vos intérêts et vos revenus, et puis nous allons en faire des instruments de pression sur la banque, sur la bourse. Quand on sait que la bourse française est capitalisée à l'étranger à proportion.
Non, mais la bourse française, c'est le compartiment français de Wall Street.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire plus de la moitié des capitaux qui sont sur la bourse sont des capitaux internationaux.
C'est pour ça d'ailleurs qu'en effet, la lutte de classe est aussi difficile pour les travailleurs. Alors, l'autre point où là je serais évidemment d'accord avec Alain Minc, c'est que il n'y a plus de rapport de force. C'est triste à dire que à l'époque du communisme, le communisme abominable, le communisme que nous avons tous combattu, à commencer par les sociaux-démocrates, eh bien, était en même temps un instrument, un deterrent, comment on dit en anglais,
enfin, dissuasion.
Un instrument de dissuasion. Ouais.
Voilà. Et il n'existe plus. Et par ailleurs, il y a un affaiblissement considérable des syndicats. Et si un point où Sarkozy, je trouve, a agi d'une manière que j'approuve, il y a deux, hein. Pour moi, il y a l'autonomie de l'université et il y a la loi sur les syndicats qui devrait permettre à ceux-ci de se renforcer et surtout de se regrouper. enfin d'arriver à plus de cohérence entre eux. Ça, je crois que c'est une condition essentielle. N'oublions jamais que le capitalisme, quand il a bien fonctionné, c'était un capitalisme qui avait non seulement des interlocuteurs, mais même des adversaires. Et la grandeur des Trente Glorieuses, c'était aussi un moment où il y avait un plan. Et le plan, qu'est-ce que c'était? C'était l'instrument de concertation entre les groupes sociaux. C'était pas tellement un plan d'indication sur la production. C'était un instrument de concertation des groupes sociaux et notamment des syndicats et du patronat.
Mais il n'y a plus de plan. Le Parti communiste ne joue plus ce rôle de déterrain, de force, oui, de dissuasion. Mais pour autant, et c'est une question que je vous pose à tous les deux, sommes-nous entrés dans une ère hyper ou ultra-libérale? Vous êtes d'accord sur le diagnostic, le nouvel âge du capitalisme, après l'ère des managers, voici venue celle des actionnaires, mais d'autres, et peut-être l'un d'entre vous, vont plus loin et disent, voilà, les digues ayant été rompu, l'ultralibéralisme gouverne nos sociétés. Alors ma question, est-ce vrai ou non? Est-ce cela correspond-il à la réalité?
Moi, j'ai jamais cru que l'ultralibéralisme gouverne les mouvements de l'épargne mondiale. Oui.
Oui.
Mais l'ultralibéralisme ne gouverne pas des sociétés dont plus de la moitié du produit intérieur est redistribué. Donc après, on peut se dire, est-ce qu'on est d'accord sur le mode de redistribution? Est-ce qu'on vise la classe sociale concernée? Par exemple, que nous ayons, Jacques et moi, une divergence forte, j'imagine, sur le bouclier fiscal, c'est quelque chose que je trouve très légitime. Mais c'est-à-dire, à l'intérieur de cette société qui est une société mixte, quel est le degré que l'on cherche entre efficacité et égalité? C'est un débat qu'il est, je trouve, très, très légitime d'avoir, et c'est le débat, au fond, qu'il relançait dans sa tribune.
Oui, tout à fait.
Oui, alors justement, alors, là-dessus, Jacques Julliard, parce que c'est ce qu'on entend beaucoup dans la gauche qui se réveille, la dénonciation de l'ultralibéralisme.
Il serait temps, hein, parce que
oui,
c'est ultralibéralisme.
Et il est vrai que le
au fond, il date,
mais est-ce qu'il existe,
en grosso modo, de Thatcher et de Reagan, surtout, enfin, et de l'école de Chicago.
Mais est-ce que ça correspond à quelque chose en France où, effectivement, il y a quand même... mais le bouclier fiscal le dit bien, hein, c'est-à-dire pas plus de 50% des revenus, oui, aux impôts, mais ça veut dire quand même 50%. Il y a la moitié de son manteau. Donc,
ce que je crois, en tout
Saint-Martin
cas,
pour
c'est
tous.
Que ce appelons-le comme ça, cet ultralibéralisme, je dis, n'est plus possible politiquement, parce que, c'est ce que j'essayais d'expliquer il y a un instant, et Alain n'était pas en désaccord, il y a désormais une incompatibilité trop forte entre les objectifs en termes d'efficacité de cet ultralibéralisme et les objectifs en termes de justice de tout gouvernement, même de droite, hein, qu'il soit de droite ou de gauche. Alors, je pense, ça n'est pas pour rien que des gouvernements de droite prônent quelque chose qui va contre cet ultralibéralisme, c'est-à-dire des formes de régulation. Et après tout, le vrai libéralisme, que je distingue de ce libéralisme actuel, n'a jamais été hostile. Je renvoie les grands économistes du 19e siècle.
Par définition,
à des formes de régulation par l'État. Ce qu'il y a eu de vraiment de mortifère dans cet ultralibéralisme, c'est dire que moins il y avait d'État, mieux ça allait. Ça n'est pas vrai que l'État ait pris à certains moments trop de place au niveau de la production, pas au niveau de la redistribution, mais au niveau de la production. Moi, c'est une chose que j'admets tout à fait, et je renie pas ce que j'ai dit dans le passé avec mes amis d'ailleurs de la CFDT ou du Club Saint-Simon, par exemple. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une époque où il y a quelque chose qui est devenu impossible, et c'est cette opposition entre la politique et l'économie. On ne peut pas laisser, dans une société moderne et démocratique, l'économie faire ce qu'elle veut. Parce que nous sommes aperçus que l'idéal libéral d'une société automatique, d'une société qui fonctionnerait au mieux des intérêts de tous, avec le minimum d'intervention de l'État, ça, c'est une fiction libérale qu'il faut abandonner.
Non, mais là-dessus, on sera pas en désaccord, parce que je vais prendre une double métaphore. Au fond, on a tout connu à Moscou, c'est-à-dire, on a connu la règle, entre guillemets, de droit. enfin la réglementation, sans le marché, et on sait ce que ça donne. Et on connaît aujourd'hui à Moscou le marché sans la règle de droit, et ça fait la jungle. Absolument. Donc les deux extrêmes de l'impossible s'incarnent à Moscou, ce qui en dit d'ailleurs long sur la Russie. C'est un tout autre sujet. Les libéraux, les vrais libéraux, ont toujours pensé que la règle de droit et le marché devaient aller de pair. Là où le système se complique, de ce point de vue, un des événements les plus importants de l'histoire économique, c'est le démantèlement de la Standard Oil of New Jersey au début du XXe siècle, c'est-à-dire le système capitaliste bloque une évolution qui sinon conduit au capitalisme monopoliste.
Le Sherman, Act.
Voilà. Le démantèlement d'une grande entreprise, c'est dire je ne veux pas d'un capitalisme monopoliste. Ça, c'est une stratégie que le capitalisme s'est menée. La question, et ça revient à notre point précédent, c'est que ce qui est vrai à l'échelle des acteurs producteurs de biens et services est extraordinairement difficile à l'échelle du capitalisme financier mondial. Je vous en donne un exemple. Il y a eu à New York, il y a de ça 15 jours, une réunion des patrons de hedge funds qui ont décidé d'essayer, ils se sont plantés, de mettre l'euro par terre. Ouais. Ils se sont plantés comme ils s'étaient plantés en pensant que l'euro n'existerait pas. On pourrait revenir là-dessus.
Avec ce grand philanthrope de Soros.
Et il y avait George Soros.
Ah oui.
Bon, ils se sont plantés. D'ailleurs, ils l'ont reconnu lundi dernier puisqu'ils ont quitté à toute vitesse leur spéculation sur l'euro. Ils ont été battus par le gouvernement allemand et le gouvernement français et Jean-Claude Trichet pour aller sur la livre où ils vont faire leur marché plus aisément. Or, ce qu'ils ont fait, vous êtes dans le bâtiment et les travaux publics, vous faites ça, ça vous conduit en tôle. C'est-à-dire, c'est une entente. Quand vous faites une entente de prix pour un marché, vous allez en prison aux États-Unis et en France, vous n'êtes pas loin de la prison. Là, dans toutes les règles que le capitalisme a inventées pour les jeux classiques de biens et services ne fonctionnent pas dans l'univers du capitalisme financier. Ouais.
D'accord. Et il faut en tirer les conséquences. Parce que, effectivement, la Standard Oil of New Jersey, de je ne sais pas quelle année, enfin c'est
1911, je crois, ou 1912, enfin un truc
comme
ça.
Oui, c'est ça. C'est juste avant la guerre de 1914. Et on applique des lois antitrust aux États-Unis. C'est, Alain vient d'expliquer que c'est extrêmement difficile en termes financiers. Et pourtant, la Standard Oil aujourd'hui, ça s'appelle Goldman Sachs. Et c'est à Goldman Sachs, où, enfin je le prends en titre symbolique, mais en même temps... réel, c'est cela. Quand on pense que désormais une banque comme celle-là peut se permettre de lancer une véritable attaque contre non plus un concurrent, non plus sur le plan économique, mais sur le plan politique, c'est-à-dire la Grèce, enfin, c'est quand même effrayant. Après l'avoir.
Pire que la Grèce, l'euro.
Oui, mais alors justement,
même s'ils ont perdu.
J'entends ce que dit Alain Mac. Ils ont perdu parce qu'il y a eu une réponse, ils ont groupé des gouvernements de Jean-Claude Trichet. Mais alors, pourquoi n'en a-t-on pas entendu davantage parler? Pourquoi cela n'a-t-il pas été porté au crédit du gouvernement? Et n'y a-t-il pas démagogie à désigner ce gouvernement comme le porte-parole de ce capitalisme financier, alors même qu'il le combat?
Moi, je ne dis pas ça.
Est-ce que je peux juste mettre un point, pardonnez-moi, technique, pour expliquer pourquoi les gouvernements ne s'attribue pas cette victoire. C'est que dans ces affaires, vous essayez de gagner en dépensant le moins d'argent possible. Donc c'est un jeu très subtil entre les messages subliminaux que vous envoyez à ce qu'on appelle les marchés et l'argent que vous mettez sur la table. Donc leur modestie était une forme d'économie, mais d'économie réelle. Jusqu'à présent, les gouvernements allemands et français n'ont pas dépensé un euro pour sauver la Grèce. Alors ils sont en train de la sauver.
À propos de cette affaire, il y a une ambiguïté des gouvernements. Parce que d'un côté, il est vrai que ce gouvernement, enfin le gouvernement de Nicolas Sarkozy, est l'expression politique, là refaisons un peu de marxisme, des classes sociales dirigeantes. Mais il est vrai que, pour les raisons que je disais tout à l'heure, il n'arrive plus à en être l'expression purement opérationnelle. Et moi, je pense que ce serait une grave erreur lors des l'élection présidentielle de 2012, de tout focaliser sur de l'anti-Sarkozy. Je l'ai dit dans mes 20 thèses.
Oui, vous le
l'ennemi, c'est pas Sarkozy. L'ennemi, c'est une certaine forme de capitalisme incompatible avec la démocratie. Alors là-dedans, moi, je crois que seul une majorité de gauche, c'est-à-dire appuyée sur une volonté populaire véritable, peut donner des armes contre ce système, ce que je crois ne peut pas faire dans les proportions qu'il faudrait un gouvernement de droite.
Et qu'est-ce que vous en pensez, Alain Minc, de cela ? Est-ce qu'un gouvernement de droite peut répondre aux défis du capitalisme financier ?
Non, mais je pense que Jacques Julliard est un véritable homme de gauche, donc il souhaite la victoire de la gauche, et donc il lui indique assez habilement de ne pas se tromper de thème.
Oui,
parce qu'à ce jeu-là, Sarkozy les battra.
Mais je le crois tout à fait.
Mais parce qu'il pratique exactement le déhanchement qui a été celui de Clinton et de Blair, sauf qu'il le fait à partir de la droite.
Alors, Alain Minc, comment expliquez-vous, c'est une question subsidiaire par rapport à celle que nous traitons, mais elle est importante malgré tout, l'extraordinaire impopularité du président de la République aujourd'hui. Il est identifié à ce capitalisme sauvage, prédateur, etc. Et puis, on a l'impression qu'il a complètement cessé d'être crédible. Alors, il est vrai aussi qu'il prend des mesures qui se retournent contre lui. La nomination de Michel Charras au Conseil constitutionnel me paraît personnellement complètement aberrante. C'est tout de même un homme qui a déclaré, lorsqu'il était au pouvoir, qu'il allait imposer un contrôle fiscal à un ennemi politique. Au Conseil constitutionnel, ça fait quand même mauvais effet. Mais ce sont des décisions un peu annexes par rapport à un problème général. Oui. Et cette impopularité tient aussi aux difficultés qu'a la France de sortir de la crise.
Attendez. Là, je vous trouve, Alain Finkielkraut,
je pose la question.
Un peu villageois. Moi, ce qui me fascine, c'est que dans une crise de cette ampleur, les pouvoirs exécutifs dans le monde ne soient pas plus mis à mal. Mais vous savez quand même que quand vous pensez que le saint Barack Obama perd le siège des Kennedy, moi j'ai dit un jour sous forme de boutade au président de la République, ce serait comme de dire que les socialistes ont gagné Neuilly. Il faut quand même voir ce que signifie la victoire dans le Massachusetts des Républicains. Quand vous voyez que Mme Merkel gagne l'élection de septembre avec le plus mauvais score que la CDU a jamais eu, et en fait est élue sur un compromis qui est en train d'exploser, parce qu'elle a des difficultés politiques qu'elle n'avait pas avec le SPD. Quand vous voyez que Gordon Brown était au sommet de l'impopularité, c'est simplement la nullité abyssale, heureusement, des conservateurs qui va le sauver, et on ne peut que le souhaiter. Je crois qu'il est normal que dans une période de crise de cet ordre, les pouvoirs exécutifs soient sur la défensive. Quant à mes yeux, vous savez, quand je vois certains sondages, qui donne au deuxième tour de la présidentielle Nicolas Sarkozy à 52 et Martine Aubry à 48, ou que face à un Dominique Strauss-Kahn sur son empiré où il n'a aucune responsabilité effective, Sarkozy fait encore 48, je me dis, vous savez, entre l'impopularité ressentie et le choix électoral, il y a une grande différence. Moi, je pense profondément que la France est à 50-50 et que personne aujourd'hui si la gauche ou la droite la gagneront dans 2 ans, c'est tout, comme toujours.
On a encore un peu de temps.
Oui, bien sûr. Oui.
Bon, je voudrais ajouter un mot à propos de Sarkozy. Moi, j'ai été beaucoup plus sévère dans mes mises en cause de Sarkozy au début de son quinquennat que maintenant. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il a perdu du temps pendant 1 an ou 18 mois. À une époque où on était encore dans la prospérité, il y avait des réformes de fond qui pouvait être faite, analogue à celle qu'a faite un social-démocrate, Schröder, en Allemagne, c'est-à-dire l'agenda, ça s'appelait l'agenda 2000, c'est-à-dire... 2010, c'est-à-dire une préparation à une crise que personne ne connaissait encore, mais il se trouve que ça a permis à l'Allemagne d'entrer dans de meilleures conditions et surtout d'en sortir dans de meilleures conditions. Et je pense que la période, en effet, du bouclier fiscal, d'un certain nombre de cadeaux, je dirais tous azimuts, je ne fais pas le procès de dire c'est uniquement les riches, mais une politique laxiste, à un moment où il aurait fallu faire, une politique d'austérité, et que maintenant, il va être obligé de faire une politique d'austérité, et c'est inévitable dans les 2 années à venir, à un moment où c'est beaucoup plus difficile, ça explique, à mon avis, que Sarkozy soit aujourd'hui impopulaire, mais plutôt pour les décisions qu'il a prises dans cette période-là que maintenant, puisque je suis obligé de dire que, en ce qui concerne la régulation, je ne suis pas en désaccord avec ce qu'il dit.
Alors, revenons justement à ces mesures jugées emblématiques. Vous en avez touché un mot, mais développons peut-être...
Attendez, mais moi, je vais vous répondre différemment. Le modèle français, entre guillemets, le modèle, disons la spécificité française, ça a toujours été d'entrer plus tard dans les crises, de tomber moins profondément que les autres,
oui,
mais d'en sortir plus tard et de rebondir moins haut. Pour moi, le diagnostic sur les réformes, en dehors de l'aspect fiscal qui relève d'une autre chose, qui est une vision de l'égalité, de l'efficacité, de la justice sociale. Les réformes en tant que telles, nous aurons le diagnostic dans un an. Nous sommes entrés plus tard et nous sommes tombés moins profondément, comme d'habitude. Si nous sortons aussi vite, je parle par rapport aux Européens, on peut se comparer aux autres, si nous sortons aussi vite et que nous remontons au même niveau qu'eux, ça veut dire qu'une somme de mini-réformes a répondu à ce qu'était à mes yeux le handicap français, c'est-à-dire une somme de mini-lâchetés. La France n'avait pas un problème. Elle avait, c'est comme un moteur dont toutes les vis s'étaient un tout petit peu relâchées. Si en revanche nous sortons plus tard et si nous sortons moins haut, alors à ce moment-là, Jacques avait raison, les réformes n'ont pas été suffisantes.
Oui, mais quand même un mot sur cette question. Parce que vous l'avez abordé tout à l'heure, c'est votre désaccord. Mais je crois que ça en dit long, justement, sur le rapport efficacité-égalité. Pourquoi, Alain Minc, étiez-vous et restez-vous favorable à cette mesure tant reprochée à Nicolas Sarkozy, le bouclier fiscal ?
Alors, d'abord, je pense quand même qu'il faut prendre la politique telle qu'elle est, c'est-à-dire, vous faites des mesures fiscales plutôt pour les gens qui vous ont élus. Et le jour où vous ferez des mesures fiscales contre les gens qui vous ont élus, vous risquez pas de rester longtemps au pouvoir. Donc je trouve quand même normal qu'un gouvernement de droite soit plus accommodant, non pas pour les grands capitalistes, parce que par exemple l'impôt sur les successions a été changé pour la classe moyenne supérieure, mais pas pour les grands capitalistes. Oui, donc il est clair que ce gouvernement est allé dans le sens de sa base électorale, qui sont les classes moyennes et les classes moyennes supérieures. Et de la même manière que si la gauche revient au pouvoir en 2012, elle ira dans le sens de sa base électorale, qui ne sont pas la classe ouvrière, mais la classe moyenne inférieure. Bon, sur le bouclier fiscal en tant que tel, je crois qu'il y a un moment donné où il fallait faire à peu près comme les autres, pour des raisons de compétition. Bon, je pense que l'acte idéologique a été fait. Moi, dans 3 ans, ça ne me gêne pas si, à la limite, on fait une tranche temporaire qui met au-dessus du bouclier fiscal. Mais je pense qu'il y a 2 mesures qui étaient des mesures symboliques. Le bouclier fiscal et le fait de ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2. Je sais bien que le dernier rapport de Philippe Séguin dit qu'il aurait fallu faire autrement. Sauf qu'on n'aurait rien fait, parce qu'on le sait. Donc il y a des moments où vous devez avoir des ruptures symboliques. Mais quand les conséquences de la rupture symbolique ont été suffisantes et actées, on retrouve un peu de flexibilité.
Moi, je vais vous dire pourquoi je continue d'être pessimiste et pourquoi, en effet, je pense que... Moi, j'étais pour une austérité de gauche, hein, je ne le cache pas.
Ça n'était pas dans le programme de la candidate pour laquelle vous avez voté. Hein.
Non,
elle dépensait aussi ses 15 milliards,
sec. Bah, écoutez, aucun candidat ne me satisfaisait totalement hein, à ce moment-là. Et je crains que ce soit la même chose la prochaine fois, mais ne le répétez pas. En réalité, ce que je crains, je vais vous dire... Moi, ce qui me préoccupe entre tout, c'est que nous allons sortir, pour reprendre le langage d'Alain Minc, plus bas que les autres pays. Nous allons rebondir moins haut.
Pourquoi vous dites ça ? Qu'est-ce qui vous fait penser ça ?
Moi, ce qui me fait penser ça, c'est que nous sommes un pays en train d'être désindustrialisé. Vous ne direz pas le contraire. C'est exactement le thème de Sarkozy actuellement. Notre agriculture est en perte de vitesse et je dirais que nous sommes en train de devenir le Club Med de l'Europe industrielle.
C'est honteux. C'est le seul. C'est honteux de dire ça.
Ah bon ?
Pourquoi ?
Non, attendez.
Prenez les 50 plus grandes entreprises européennes. Le nombre de grands groupes français est absolument disproportionné par rapport à l'Angleterre, par rapport à l'Italie, à l'Espagne, et même proportionnellement par rapport à l'Allemagne. Premier élément. Deuxièmement, il y a un problème de revenus des agriculteurs, évidemment. mais il n'y a pas un problème d'exportation agricole.
Si,
les
si.
Exportations agricoles, la France demeure un grand pays agricole.
Excusez-moi, elles sont en baisse.
Troisièmement, sur la désindustrialisation. Oui, la France se désindustrialise, puisque depuis la première élection de Jacques Chirac, c'est-à-dire en 95, nos coûts salariaux ont augmenté de 20% par rapport aux Allemands. Une grande partie de cet effort a été fait par le laxisme chiraquien et l'autre grande partie par les 35 heures. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Écoutez, l'explication est une chose.
Vous reconnaissez le rôle éventuellement négatif des 35 heures ?
Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le diagnostic. Alain dit, je ne sais pas pourquoi, c'est honteux. Moi, je constate, c'est dans les journaux d'aujourd'hui, que la part de l'industrie dans le PIB français, c'est 16%. Et nous venons de d'un horizon qui était à 30 ou quelque chose comme ça. Alors que c'est pas le même cas en Allemagne. Eh bien, je dis...
Mais il n'y a pas d'industrie de service en Allemagne non plus. Je veux dire, nous, on a une industrie de service.
Il y en a moins. Mais il n'empêche que c'est profondément préoccupant. Et quand je dis que la France...
Non,
est
j'ai
en
dit
train
un peu
de
pour mettre un peu d'animation.
Le Kermit de l'Europe, c'est avec beaucoup d'inquiétude. Or, pourquoi cette inquiétude ? Effectivement, il y a des pays comme l'Angleterre qui vivent pratiquement sans industrie, ou en tout cas sans industrie nationale. Bon. Mais la France ne peut pas se permettre ça. Pourquoi ? Parce qu'elle a aussi une politique européenne. Or, moi, ce qui me préoccupe, c'est de faire enfin cette Europe à deux, qui est la condition du redressement de l'Europe tout entière et de la France particulière. Et s'il y a un différentiel de productivité, de compétitivité et de production tout court entre la France et l'Allemagne, eh bien, cette base, ce pilier d'une Europe future, il sera impossible. Voilà pourquoi je suis pour une politique à la fois résolument de gauche et en même temps de rigueur, comme l'avait montré Schröder, parce que c'est la condition de notre grandeur politique.
Mais avec ce double objectif, vous croyez vraiment pouvoir rassembler un électorat qui irait du centre à l'extrême gauche, une rigueur de gauche ?
De toute manière, ça s'imposera. Après toutes les formes de laxisme, car Sarkozy est laxiste. Voyez le niveau de la dette, voyez le niveau du déficit, eh bien la gauche sera obligée, comme d'ailleurs la Grèce de Papandréou, de payer les pots cassés. Mais il faut le faire avec des perspectives.
Sarkozy est-il laxiste ?
Non mais... Il faut comparer la France et l'Allemagne. Et il faut ajouter un facteur qui est absolument majeur, dont on ne parle jamais, qui est la démographie. La France
non,
a...
on n'en parle.
Attendez. La France a un problème de déficit par rapport à l'Allemagne. Elle n'a pas de problème de dette par rapport à l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que la dette, c'est 20 ans, 30 ans. Dans 20 ans, il y a 10 millions d'Allemands de moins. Enfin, dans 25 ans, il y a 10 millions d'Allemands de moins et il y a 10 millions de Français de plus. La France sera plus peuplée que l'Allemagne. Deuxièmement, les charges de l'État-providence dans un pays plus vieilli sont évidemment plus fortes. Donc, la course entre la France et l'Allemagne ne se résume pas simplement à un handicap qui aujourd'hui me désole, mais qu'un handicap de coûts salariaux. Je pense qu'en revanche, les Allemands ont réglé un problème que nous n'avons jamais réglé, qui est qu'ils n'ont pas de déficit structurel, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire moins 3% sur leur déficit public au pire de la crise. Ouais. Ils vont faire moins 6 cette année, nous on sera à moins 8. Donc on a évidemment un effort à faire en la matière, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. À certains égards, sur le long terme, notre situation est meilleure que celle de l'Allemagne.
Vous pensez que la situation démographique de la France, sa fécondité est un avantage.
Énorme. La dette, ce n'est pas la dette en soi, c'est la dette par tête. Et évidemment, plus vous avez de contribuables, plus elle baisse.
D'accord. Sauf qu'il faut entrer dans le facteur temps. Je crois que ce que vous dites est vrai, mais ce sera trop tard, cher Alain Minc. C'est-à-dire que l'Europe est en train de jouer son avenir et le joue dans les 10 ans à venir. Si elle veut exister à l'échelle mondiale, comme un pôle à la fois politique, diplomatique, militaire, tout ce que vous voudrez, c'est dans les 10 ans. Donc, si la France et l'Allemagne n'arrivent pas à rapprocher leur politique, leurs perspectives dans les 10 années à venir, l'Europe est fichue. Et chacun d'entre nous avec. C'est pourquoi, à terme, je comprends votre raisonnement et au besoin, je l'approuve. Simplement, il faut que nous ayons les moyens de convaincre les Allemands que leur avenir, c'est de refaire la France-Allemagne.
Mais je vous fais un pari très simple. vous verrez que quand la prospérité sera décemment revenue, la hausse des impôts sera une hausse faite à l'échelle de l'Union européenne. Et vous verrez que tous les gouvernements seront ravis de décider collectivement, donc anonymement, d'augmenter la TVA de 2%.
Bon, écoutez. Je ne sais pas si ça peut tenir lieu de conclusion. Ça, c'est un pari. Moi, ce que je pense, c'est que dans cette affaire, je voudrais revenir à mon point essentiel, c'est que la gauche doit se réinsérer dans le jeu politique français et aussi international.
Ouais, souhaitons-lui bonne chance. Merci Jacques Julliard. Merci Alain Minc. La semaine prochaine, nous parlerons d'un pays qui affiche un taux de croissance insolent et inquiétant. L'émission aura pour titre « Faut-il avoir peur de la Chine ?» et mes invités seront François Godemant et Eric Israelevitch. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Marie Dalquier et Didier Lagarde. À la technique, Sébastien Royer. Dans un instant, Jean-Noël Jeannonet.